Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Autriche 2023. Avant d'accueillir mon collaborateur, il est présentement midi 32, heure du Québec. Au moment où je vous parle en ce moment, il y a l'écurie Aston Martin qui a déposé une demande de contestation des résultats du Grand Prix d'Autriche pour concernant en fait toutes des histoires reliées aux limites de la piste. Et à l'heure où on se parle, il est présentement midi 32, il y a un ou deux représentants de l'écurie qui sont en discussion avec les commissaires à l'heure actuelle. Donc, si jamais on a une mise à jour pendant l'enregistrement, on vous tiendra au courant. Je sais que probablement l'épisode que vous allez écouter ne sera pas, il y aura peut-être pas la mise à jour, mais surveillez les réseaux sociaux pour avoir des mises à jour. Sur ce, j'accueille avec moi le cofondateur du groupe Facebook La Monoplace, Julien Ligari-Turcotte. Salut Julien.
Bonjour Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va bien, on a eu droit à une très belle course. J'ai trouvé également qu'il y a eu beaucoup d'ambiance avec l'ensemble des pénalités dont tu as fait mention. Et visiblement, ce n'est pas terminé. Comme tu l'as mentionné, Aston Martin a logé un protêt en vertu de l'article 33.3 du Sporting Code Regulation de la FIA. Donc, on verra s'il y a des changements sous peu qui arriveront dans le résultat final du Grand Prix d'Autriche 2023.
Exactement. Donc, et on vous rappelle, on vous tiendra au courant si jamais on a des... et si jamais on a des mises à jour.
Mises à jour, oui.
Exactement, mais c'est sûr que ce ne sera pas maintenant parce qu'il y a une discussion autour du nombre de pénalités de tours qui auraient dû être supprimés. Puis peut-être même de ce que j'ai pu voir, ça reste à confirmer, c'est pas l'exactitude, mais peut-être. Peut-être une pénalité qui a été appliquée au mauvais pilote aussi. Ça reste à voir. Bon, on va parler de la course. On vous parlera des track limits un peu plus tard. Victoire de Max Verstappen, sans équivoque. Sa 42e en Formule 1, maintenant devant Ayrton Senna. Sa 5e en Autriche. Et ça inclut aussi le Grand Prix de Styrie 2021. Charles Leclerc finit deuxième avec un premier podium depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023. Sergio Perez inscrit un premier podium depuis le Grand Prix de Miami. Et ça fait un peu longtemps, hein? Carlos Sainz finit quatrième. Belle performance de Lando Norris en cinquième place. Fernando Alonso sixième. Lewis Hamilton septième. George Russell 8e, Pierre Gasly 9e et Lance Stroll 10e. Et on a perdu un pilote, Nico Hülkenberg, sur problème mécanique. Alors, Julien, tu l'as mentionné en entrée d'épisode, c'était une belle course.
Oui, tout à fait. On a eu droit à un excellent départ de Max Verstappen. Puis à partir de ce moment, je me disais, la course est déjà terminée. C'est clairement Max Verstappen qui va remporter la course. Tout de même, ce qui s'est produit en course, les auditeurs l'auront constaté comme nous. Il y a eu un déploiement de la voiture de sécurité. Il y a également eu une voiture de sécurité virtuelle où la très grande majorité des voitures ont décidé de rentrer au puits. Même Ferrari a effectué un double stack qui s'est avéré médiocre à Charles Leclerc, qui a eu un changement de pneu en 4,4 secondes, et Carlos Sainz, si je me rappelle bien, en 4,5 secondes. Tout de même, Max Verstappen, qui est demeuré hors des puits, je me suis posé beaucoup de questions lorsque j'ai vu ça arriver, et c'est ce qui a fait en sorte que pendant la piste, l'écart entre Charles Leclerc qui avait effectué son arrêt au puits et Max Verstappen qui ne l'avait pas fait, s'était réduit à environ 12 secondes, si je me rappelle bien, de sorte que lorsque Max Verstappen est rentré au puits, ça a permis à Charles Leclerc de prendre les devants lors de ce Grand Prix-là. Et si je me rappelle bien, j'ai pas la statistique devant moi, j'ai tenté de la retrouver, mais c'était la première fois depuis très, très longtemps, je pense depuis plus de 200 tours, que Max Verstappen n'était pas carrément le meneur du Grand Prix. Ça a donné ça donnait quelque chose, somme toute intéressant. Abdou, j'ai la statistique devant moi.
Oui.
Donc, Max Verstappen, depuis le 7 mai 2023 au Grand Prix de Miami, ça faisait 249 tours en ligne qu'il menait. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui démontre toute la domination du pilote hollandais ainsi que de l'écurie autrichienne, mais tout de même, ça n'a pas été trop difficile pour Max Verstappen, finalement, de réduire son écart avec Charles Leclerc pour finalement remporter le Grand Prix local de son écurie. Donc, course très intéressante aussi qui a été, je dirais, épicée par le nombre de drapeaux blancs et noirs qui, finalement, pour plusieurs pilotes, ont mené à des pénalités de 5 secondes qui devaient être prises au puits. Bon, ça fait l'objet de certaines controverses. Mm-hmm. Même depuis les qualifications, certains pilotes s'insurgeaient peut-être un peu contre les limites des pistes en Autriche. Tout de même, j'ai trouvé que ça rendait le tout assez intéressant. Peut-être un peu difficile à suivre, mais en considération des autres Grands Prix qu'on a eus, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le Grand Prix d'Autriche. Toi,
ouais, ouais, moi aussi, j'ai bien aimé en fait l'ensemble du week-end. Je crois que le sprint d'hier était pas mal du tout. C'est sûr, avec la pluie avant le début du sprint et tout ce qui est arrivé. Et ensuite, les changements de météo aussi, ça a aidé à épicer un peu plus la course, le sprint. Mais la course était pas mal du tout. Je pense que vraiment, Montréal était bien, mais je pense que Autriche était mieux que ça. Je pense même que c'est personnellement la troisième meilleure course de la saison que j'ai vue.
Après lesquelles?
Après Espagne et Monaco. Puis ouais. C'est peu dire aussi à quel point la saison a été assez rough. A été assez rough côté compétition. Montréal est juste derrière. Mais c'était vraiment une belle course. Et justement, même Max Verstappen qui a fait... Et Red Bull qui, d'ailleurs, parlons-en de Verstappen, a fait un sacré... ça a été un énorme énoncé d'arrêter Verstappen dans les derniers tours pour aller chercher le meilleur tour. Et surtout, avec un écart de... Quoi, 20, je pense qu'il y avait quoi, 23, 24 secondes sur Leclerc avant le...
C'est environ 23 secondes et demie.
C'est ça. Donc, de le faire pour obtenir le point du meilleur tour, c'était assez bold de la part de Red Bull.
Tout à fait. J'ai lu que c'était beaucoup une décision de Max Verstappen d'aller chercher ce tour, d'aller effectuer ce changement de pneu supplémentaire, donc un arrêt au puits pour se mettre sur la gomme tendre. Et puis, fracasser carrément le meilleur tour du jour. Je pense que c'était sur le dernier tour, donc le 71e tour.
Ouais.
Et puis, même Max Verstappen s'est permis, lorsqu'il est sorti des puits au 70e tour, si je me rappelle bien, il y avait environ une avance de 3,5 secondes sur Charles Leclerc après que Red Bull ait pu changer les pneus de Max Verstappen en 2,3 secondes. Ils sont imbattables. Ils sont incroyables. Malgré tout, Max Verstappen s'est permis de réchauffer un peu ses pneus, de zigzaguer en ligne droite sans trop de problèmes.
Ouais.
Ce qui a fait en sorte que Charles Leclerc est allé se rapprocher de Max Verstappen à environ 2,1 secondes. Mais malgré tout, Max Verstappen a réussi vraiment à obtenir le meilleur tour sans problème et puis d'aller chercher ce point supplémentaire, donc 26 points. Ouais. Pour Max Verstappen.
Eh oui, clairement. Et il a été vraiment, vraiment, mais vraiment dans une autre planète. Oui, il est revenu deuxième derrière, mais il n'a jamais été inquiété. Même pour dépasser les Ferrari, ça a été sans aucun problème. Alors, je crois que...
Plutôt chaud dans du beurre.
Oui, exactement. Ça a été vraiment, vraiment du... Ça a été vraiment une performance, encore une fois, impressionnante et très triomphante de la part de Verstappen. Et d'un autre côté, on a Sergio Perez qui, finalement, nous a fait une belle performance après des épreuves assez difficiles, surtout en qualification où c'est complètement raté en Q2, entre autres, et en Q1 après avoir tapé le mur à Monaco, à Sainte-Devote de toutes les places. Mais aujourd'hui, Il a très bien fait. Parti 15e, fini 3e. Évidemment, il est dans une Red Bull. On s'attend à ce qu'il fasse ça de manière constante. Mais pour le faire, il faut qu'il soit en forme. Et en plus, il ne faut pas oublier que Perez a été malade jeudi, manquant la journée des médias. Donc, toutes les obligations médiatiques auxquelles il devait prendre part pour se concentrer pour le week-end. Et ce que j'ai apprécié de Checo, c'est qu'il n'a pas utilisé le fait d'être malade pour justifier son élimination en Q2. Et c'est sa mauvaise performance. Aujourd'hui, il a été très bon dans les circonstances.
Tout à fait. Comme tu l'as mentionné, parti 15e pour finir 3e sur un circuit qui est quand même qui est quand même très étroit. Puis on l'a vu justement avec le nombre de black and white, de drapeaux blanc et noir aujourd'hui. Ça peut être un circuit relativement complexe pour certains dépassements. Puis ça n'a pas semblé être un enjeu particulier pour Checo Pérez, vraiment, qui a mené une course exceptionnelle. Je pense par contre qu'aujourd'hui, on a vu entre Sergio Perez et Max Verstappen une différence en ce qui a trait à l'intelligence sur piste que j'ai trouvé exceptionnelle. Puis je me permets d'aborder ce sujet-là, Abdou.
Oui.
À quel point Max Verstappen est intelligent en piste pour déterminer les ondes de détection du DRS et s'en servir à son avantage? On l'a vu lors des dépassements avec Charles Leclerc, donc qui attend à la dernière minute pour s'assurer que l'aileron avant de Charles Leclerc soit devant lui pour compléter son dépassement juste avant la zone de détection du DRS, se permet par la suite de compléter son dépassement et est en mesure d'obtenir la zone de DRS quand même alors qu'il est devant Charles Leclerc. C'est fascinant à quel point Max Verstappen est un pilote intelligent qui va aller chercher l'ensemble des opportunités, même s'il sait qu'il a la meilleure voiture. Il prend l'ensemble des chances, l'ensemble des stratégies qui lui sont offertes. Et c'est là où on a vu peut-être une différence entre le dépassement de Max Verstappen sur Charles Leclerc et le dépassement de Sergio Perez sur Carlos Sainz, qui ne s'est pas du tout fait de la même façon. Donc, chapeau encore à Charles Leclerc. Et peut-être, dis-je bien, ça m'étonnerait quand même, mais est-ce que Sergio Perez, en effectuant des dépassements de la sorte sur Carlos Sainz, aurait pu aller chercher la deuxième position? C'est de la spéculation, mais on a eu droit à un Max Verstappen, encore une fois, tellement bon, tellement imbattable. Puis, honnêtement, je me pose la question à savoir à quel moment est-ce qu'il va être couronné champion du monde.
Moi, je pense même si la tendance se maintient, par exemple, il remporte toutes les courses du mois de juillet. Et j'inclus le sprint en Belgique à la fin du mois. Moi, je pense qu'il pourrait être sacré champion, soit aux Pays-Bas ou en Italie, si la tendance se maintient. Parce que j'ai l'impression que, à l'exception de problèmes mécaniques, ce qu'on n'a pas vu chez Red Bull pour le moment, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a absolument rien qui peut l'arrêter en ce moment. Donc,
écurie fiable, voiture fiable, personnel fiable.
Pilote fiable.
Pilote très fiable.
Alors, je crois que la combinaison est là, puis je pense même qu'on est en voie de potentiellement voir une écurie plus forte que McLaren 88. Ben, j'aurais voulu dire ça, mais Perez n'a pas été à la hauteur de ce que Senna et Prost ont fait cette année-là. Puis même la course qui a été manquée par McLaren au Grand Prix d'Italie 88, ben c'était pas vraiment de la faute à Senna. Là, c'était plus Schlesser qui a mal interprété le fait de se faire prendre un tour. Alors, pour l'instant, la McLaren 88 reste la meilleure équipe, mais Red Bull s'en vient. Red Bull 2023 s'en vient pas mal les rejoindre.
Ben si, en fait, si c'était une meilleure performance de Checo Perez, à mon sens, c'est quasi certain qu'on parlerait de Red Bull présentement comme l'écurie la plus dominante de l'histoire de la Formule 1, selon moi.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Moi, je pense.
Devant McLaren 88, devant Mercedes 2019 ou Mercedes 2020. Sans problème.
Ouais, ouais. Moi, je pense que même Lewis Hamilton le disait, je pense que on est en train de voir la voiture la plus dominante de l'histoire du sport.
Oui, parce que maintenant, peu importe le circuit, ça fait aucune différence.
Oui.
Avant, on pouvait voir une différence avec, par exemple, bon, des circuits comme Monza, des circuits comme Monaco, qui sont complètement différents, des circuits urbains contre des circuits plus traditionnels. Ça venait un peu brouiller les cartes.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est rendu complètement futile. Ça va faire une différence pour certaines écuries, par exemple Williams, qui sont particulièrement rapides en ligne droite. Il faut leur donner. Moi, je m'attends à une très belle performance de Williams lors d'Italie de Monza 2023. Mais pour Red Bull, peu importe le circuit, c'est futile.
Ah oui, c'est rendu là. C'est carrément une voiture très polyvalente. Très polyvalente.
J'en conviens, oui.
Oh non, c'est malade. Donc, j'ai hâte de voir, mais la semaine prochaine en Grande-Bretagne, on va voir s'ils vont continuer là ensuite. Là, on va parler du sujet très contentieux de ce Grand Prix et qui risque de potentiellement, je ne sais pas à quel point, changer le résultat de ce Grand Prix. Parce que tout ce que le résultat que je vous ai donné, le top 10, prenez ça peut-être comme provisoire. Parce que je vous rappelle, Aston Martin est en train de contester pour un nombre de tours supprimés en raison des limites de la piste. Et ça a été un énorme sujet de discussion tout au long du week-end. Et moi, je pense que je suis d'accord avec le fait que la FIA ait implanté le fait que si vous dépassez, si les quatre roues de la voiture sont à l'extérieur de la piste, vous perdez votre tour. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis l'année dernière. Et pas seulement en Autriche, mais sur tous les circuits. Je prends un exemple, Lando Norris qui a perdu un chrono qu'il a éliminé de la Q2 au Grand Prix d'Espagne l'année dernière parce qu'il est allé hors piste. Les quatre roues étaient hors piste. C'est comme ça partout. En Autriche, c'est parce que t'es plus prompt à dépasser les limites de la piste parce que tu dois aller plus rapidement. Donc, moi, quand j'entends des pilotes se plaindre que c'est pas juste les limites de la piste. Dans n'importe quel sport, il existe des limites de piste. Ben, des limites. En Formule 1, c'est pas plus différent que les autres. Oui, c'est une question. Oui, ça peut être une question de millimètres et tout, mais la FIA l'a mis clair et net. Je comprends pas pourquoi on vient encore se plaindre. Oui, il peut y avoir place à amélioration sur certains procédés, mais la base, elle est là. Tu mets pas tes quatre roues hors piste. Point final.
On reproche tellement à la FIA de ne pas appliquer ses règles de façon constante, puis d'être une organisation brouillon.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé la FIA excellente.
Mm-hmm.
C'est la même règle pour tout le monde. Ça peut pas être plus clair, ça peut pas être plus uniforme. Les limites de la piste sont là pour que l'ensemble des pilotes soient soumis aux mêmes règles. On parle de limites qui sont sévères, certes. Mais moi, j'ai trouvé que ça rajoute... C'est ça qui démontre l'ensemble du talent d'un pilote, c'est d'être capable de respecter les limites de la piste puis d'obtenir les meilleurs temps. C'est ce qui fait en sorte que Max Verstappen, aujourd'hui, a probablement été un des meilleurs pilotes. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Lando Norris mérite amplement son titre de pilote du jour aujourd'hui. Il s'est fait, bon, on sentait que ses ingénieurs étaient très nerveux hein, envers le jeune pilote britannique pour qu'il respecte les limites de la piste. Mais puis c'est hier, vraiment, Max Verstappen l'a dit en lançant un peu une flèche à l'égard de Sergio Perez. Les limites ont des raisons d'être. Oui, elles sont sévères, mais tout le monde doit les respecter. Autrement, on a l'air d'une gang d'amateurs. Ça, je cite vraiment Max Verstappen là-dessus. Donc, non, c'est peut-être que c'est sévère. Est-ce que la FIA un jour décidera de changer les limites? Peut-être, mais pour l'instant, moi, j'ai trouvé que ça a donné, ça a rajouté énormément de piquant à cette piste. Puis, chapeau à la FIA de les appliquer. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des erreurs dans l'application de l'article 33.3? Il semblerait que peut-être. Là, l'appel vient d'Aston Martin. Si je regarde le classement aujourd'hui là, du Grand Prix d'Autriche, ce que je constate, c'est que Pierre Gasly est à un peu plus de 2,3, 2,4 secondes devant Lance Stroll. Je constate également que Fernando Alonso est à environ 4, quelques secondes de Lando Norris. Donc, est-ce que Aston Martin, en logeant ce protêt-là, souhaite obtenir des places supplémentaires devant, par exemple, pour que Fernando Alonso obtienne une cinquième place ou pour que Lance Stroll, par exemple, obtienne, je sais pas, une neuvième place, donc deux points. C'est possible. Mm-hmm. Ça demeure encore très spéculatif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement eu de drapeaux noirs et blancs. Est-ce que ces drapeaux noirs et blancs-là ont été soumis à l'ensemble des pilotes qui contrevenaient à l'article 33.3 au même moment? Peut-être que la contestation d'Aston Martin vient de là. Mm-hmm. J'ai hâte de voir le résultat final. Puis tu fais bien, Abdou, là, d'émettre une réserve à l'effet que c'est possible que le classement qui a été mentionné en début d'enregistrement change d'ici quelques minutes, voire quelques heures.
Ouais, puis en même temps, oui, je peux comprendre. Je maintiens mon point pour dire rester en dehors de la piste, mais peut-être aussi qu'une des raisons pour laquelle les gens sont un peu en colère auprès de la FIA, c'est que peut-être qu'il manque des ressources pour mettre ça en réglementation. Pourtant, c'est quelque chose de clair. Puis une des raisons aussi pour laquelle justement, Aston Martin part en contestation du résultat, c'est parce qu'il y a tellement de tours qui ont été supprimés. Puis je pense que j'étais même envoyé en privé dans un document spreadsheet, un fichier Excel là, qui a peut-être été mis à jour, mais il y a beaucoup de tours supprimés. Puis je suis même pas sûr que la liste est mise à jour parce que je vois. Ah, ok, non, c'est selon le nombre de tours. Mais ça, c'est juste les violations de track limits.
Oui, c'est exact. Il y en a tellement, c'est pratiquement aussi difficile à lire que le Sporting Code Regulation. Right. Mais c'est là qu'on voit que ça a été une journée infiniment chargée pour la FIA. Reste à voir qu'est-ce que cette contestation-là va donner. J'ose croire que si Aston Martin a logé un protest, c'est parce qu'une décision pourrait être rendue à l'avantage de l'écurie. Ce serait quand même contradictoire si finalement, ça venait nuire Lance Stroll, quoique Alex Albon est à 10 secondes derrière lui. Généralement, on parle de pénalité de 5 secondes. Mm-hmm. Donc, puis même chose pour Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui ont environ 9 secondes d'écart entre les deux, entre la 6e et la 7e place. Donc, peut-être que Aston Martin utilise ce recours-là parce qu'ils n'ont rien à perdre puis que ça leur permettrait peut-être d'obtenir plus de points. On le verra par la suite, mais j'ai très hâte de voir la décision.
Et tu vois, je suis tombé sur une statistique qui a été collectée par le subreddit de la Formule 1 sur Twitter. 61 avertissements, 11 drapeaux blancs et noirs, 8 pénalités.
Mais combien d'avertissements?
61.
C'est en moyenne 3 par pilote.
Et c'est fou. Puis, je tiens à préciser, c'est peut-être même provisoire parce qu'on ne sait jamais. Hein. Parce que j'ai vu aussi un log, j'arrive même pas à lire tellement que c'est il y en a beaucoup, mais il y a eu beaucoup de tours supprimés, là, comme ça se peut pas, là. T'es même Alex Albon, Yuki Tsunoda a eu 8 avertissements. Pierre Gasly en a eu 7. Lewis Hamilton, Alex Albon 6. C'est fou, là. Ben, évidemment,
je pense... Et surtout, l'avertissement envers Nico Hülkenberg qui s'est fait balancer le drapeau noir et blanc alors que son véhicule était tout simplement sorti de la piste.
Écoute, c'est genre... un moment what the fuck. Littéralement.
Ouais, donc, pauvre Nico Hülkenberg, hein, je veux dire, qui avait un excellent week-end, puis finalement, visiblement, un problème de moteur, sort de piste. Mais voici, il est sorti de piste. DNF, aucun problème. Il n'a pas tout fait pour respecter, hein, je veux dire. Ouais. Malheureusement, tu sors de la piste. Hein, il n'était plus dans les limites. Il s'est stationné de façon sécuritaire. Drapeau noir et blanc. Terminé. Tant pis pour toi.
Exactement. Et en plus, tu vois, je suis tombé sur le tweet du fondateur de Race Fans, Keith Collantine, qui dit que peut-être il y a peut-être quelque chose qui explique pourquoi Aston Martin est parti en contestation. Lance Stroll a fini à 1,5 seconde de Pierre Gasly.
Oui.
Et il y a 2 pénalités imposées à Yuki Tsunoda. Ben, les documents des pénalités à Yuki Tsunoda ont été référés comme la voiture numéro 10. Qui est Pierre Gasly? Or, Tsunoda, c'est le numéro 22. Donc, peut-être que Aston Martin va avoir une clarification sur est-ce que la FIA a vraiment donné les bonnes pénalités aux bons pilotes ou c'est juste une coquille qui s'est glissée parce que peut-être ça donnerait peut-être même un point de plus à Stroll qui a fini 10e. Et est-ce que ça aussi le nombre de tours qui ont été supprimés, est-ce que ça peut impacter aussi des pilotes qui ont été devant Fernando Alonso? Parce que je regarde la liste des track limits violations qui a été collectée par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y en a quand même beaucoup. Là. Tu vois, je pense même Sainz, on peut l'oublier parce qu'il a servi sa pénalité. Il y en a. Hamilton a servi sa pénalité aussi. Verstappen
parce que
aussi.
Si je comprends bien ce que tu viens de mentionner, bon, de mémoire, Yuki Tsunoda avait une première pénalité de 5 secondes
ouais.
pour avoir bafoué les limites de la piste.
Ouais.
Par la suite, Yuki Tsunoda en aurait obtenu une deuxième à l'effet qu'il avait servi incorrectement sa pénalité.
Ouais. Et là, je regarde...
Ce que tu me dis, c'est que une autre pénalité aurait été accordée à Yuki Tsunoda alors qu'elle devait être décernée à Pierre Gasly?
Ouais, et c'est... C'est ce que j'ai pu comprendre du tweet, mais peut-être que c'est juste parce qu'Aston Martin veut clarifier les trucs et s'il n'y a pas eu une coquille qui s'est glissée dans la rédaction du document, du titre du document, mais quand je regarde, les track limit violations, Tsunoda, il y en a eu quand même beaucoup, 47, 48, 62 en plus, mais on va voir parce que il y a tellement eu de violations de tours supprimés que peut-être la FIA a perdu le compte aussi. Donc, c'est mieux. On va mettre ça en suspens pour le moment, mais si jamais il y a une nouvelle qui provient de la FIA, ben on vous le dira en temps et lieu. Mais oui, ça a été. Mais mon point tient. Restez juste entre les deux lignes, puis ça va bien aller. Et là, on va parler de Ferrari. Et normalement, j'aurais sorti le thème « It's the Historia » de Ferrari, mais je le ferai pas pour une deuxième course consécutive. Parce qu'ils ont bien fait, même s'ils ont botché un peu leur double stack. Ils ont fait une bonne course dans les circonstances, Julien.
Oui, tout à fait. On a vu un Charles Leclerc qui a quand même eu un bon départ malgré un meilleur départ de Max Verstappen. On a vu le pilote monégasque assez combatif dans les limites de son véhicule. Ça a été une bonne course pour Charles Leclerc, hein, si je me rappelle bien. C'est un des rares pilotes avec Max Verstappen, puis là tu me corrigeras, mais qui n'a pas reçu de drapeau noir et blanc. En partant, ça semble être un exploit sur ce circuit-là. Ouais. Même s'il en a reçu un, tout de même, il n'a pas eu de pénalité de 5 secondes. Là. Donc, belle course de Charles Leclerc. Une un peu moins belle course peut-être de Carlos Sainz, qui lui, de son côté, semblait avoir un peu plus de difficultés avec le drapeau noir et blanc.
Ouais.
Lui qui termine à 4 secondes derrière Sergio Perez. Donc, on peut penser que si Carlos Sainz n'avait pas obtenu cette pénalité, Ferrari aurait eu un podium avec une 2e et 3e position. Mais tout de même, Carlos Sainz a été en mesure d'obtenir 12 points devant Lando Norris qui avait 10 points. Les deux anciens coéquipiers qui ont eu une magnifique bataille en piste. Vraiment, je pense que les deux pilotes se connaissent bien, se respectent beaucoup. Mais c'est la Ferrari finalement qui aura réussi à prendre le dessus. Donc, oui, mis à part un double stack un peu, disons, un peu difficile de la part de Ferrari. Moi, des fois, je m'interroge même pourquoi est-ce qu'ils continuent d'essayer les double stacks. On dirait qu'à chaque fois, ils réussissent à foirer, contrairement à ce que Mercedes ou Red Bull nous a déjà démontré par le passé. Bon, finalement, ça n'aura pas eu si grande incidence pendant le Grand Prix, d'autant plus que, si je me rappelle bien, le tout s'est fait derrière une voiture de sécurité virtuelle. Ça a peut-être eu tendance à aider cette erreur des mécaniciens de Ferrari. Donc de ce que je peux constater, Ferrari est désormais en 4e place, est toujours en fait en 4e place du championnat des constructeurs et se rapproche dangereusement d'Aston Martin. Donc Ferrari est à 158 points. Aston Martin, 172 points en 3e position. Tout juste derrière Mercedes à 178 points. Puis on parlera même pas de Red Bull, là, à 377 points. Ils sont dans une ligue, une ligue à part. Ce serait la F1.1. Ben, la F1 est à Red Bull et la F1.5 est probablement le reste des écuries.
Ouais. Non, j'allais dire quelque chose, mais je... Je vais le dire quand même, The Battle of the Mid. Shout out to Rocket Powered Mohawk. Le tabarnak.
Tout à fait.
Ah.
Terrible.
Terrible. Terrible personne.
Mais parfois drôle. Et on ne dira pas trop fort.
Et j'ai oublié de mentionner quelque chose aussi concernant l'histoire des track limits. Il y a aussi une raison pour laquelle on peut pas mettre du gravier à certains endroits. C'est parce qu'il y a des circuits qui accueillent la MotoGP. Puis le gravier peut causer des blessures et des flips aussi avec les motos. Donc, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que il y a aussi parce que je pense entre autres au Red Bull Ring qui a enlevé une bonne partie du gravier. Ben, parce que c'est un circuit qui est tellement rapide, donc ils peuvent pas mettre du gravier sur un circuit qui est rapide comme celui-là. Mettre du gravier pour régler les histoires de track limits, c'est facile à faire, mais c'est difficile en principe pour les circuits qui accueillent la MotoGP. Bon, mais fermons la parenthèse, passons maintenant à Lando Norris, qui a fait une très belle course, un très beau week-end de sa part. Il mérite son titre de pilote du jour. A perdu une place aux dépens de Lewis Hamilton au départ. a été très bien observé la conduite de Hamilton, ce qui a résulté à une pénalité de 5 secondes du pilote du septuple champion du monde, et c'est même permis de dépasser Hamilton. Donc, et en plus avec les mises à jour de la voiture, Norris a été vraiment excellent tout au long du week-end.
Tu as tout à fait raison, Abdou. Vraiment, une magnifique course pour Lando Norris qui termine en cinquième position, qui obtient 10 points. Comme tu l'as mentionné, c'est sa voiture qui a bénéficié des améliorations, des dernières améliorations là, au dépens de son coéquipier Oscar Piastri, qui, lui, de son côté, bon, une 17e place un peu difficile, hein, n'obtient aucun point, un tour de retard sur le meneur, évidemment. Donc, Lando Norris, vraiment, c'est un circuit sur lequel il est particulièrement bon, Lando Norris, je trouve, le Red Bull Ring, là. Vraiment, c'est comme s'il était chez lui. Comme tu l'as mentionné, il était très alerte face à la conduite de Lewis Hamilton, qui, bon, on a entendu à plusieurs reprises Lando Norris se plaindre plutôt du fait que Lewis Hamilton ne respectait pas les limites de la piste. Cependant, Lando Norris a fini par se faire avertir également par ses ingénieurs de bien respecter les limites de piste. Ses ingénieurs alléguaient que l'ensemble, un peu comme les ingénieurs de Lewis Hamilton ont dit, mais de toute façon, l'ensemble des pilotes vont obtenir une pénalité de 5 secondes. Donc, vraiment, respecte le plus possible les limites. Comme ça, ben, il y a peut-être un podium qui pourrait arriver, ne serait-ce que par le cumul des pénalités.
Exact. Et vraiment, Norris, c'est un circuit où il a obtenu 2 podiums au cours de sa carrière au Red Bull Ring. Alors, je crois que c'est un circuit qui, lui, s'y est très bien. Et en plus de ça, le fait qu'il y ait énormément de mises à jour sur sa voiture, c'est un aspect très positif, c'est un point très positif pour Red Bull dans les circonstances. Et en plus de ça, c'est vraiment une situation promettante pour Oscar Piastri qui, malheureusement, ça n'a pas été une course facile pour lui. Mais quand on voit que quand il va apprendre que ça fonctionne sur la voiture de Norris, ça peut lui donner au moins un espoir pour la semaine prochaine à Silverstone. Mais vraiment, Norris a fait exactement un très bon travail, puis ça permet à McLaren de se rapprocher un petit peu de Alpine, mais de s'éloigner de Haas.
Oui, tout à fait. Donc, McLaren présentement à 27 points dans le championnat des constructeurs, avec Alpine qui la devance en 5e place avec quand même 48 points. Mais tout à fait. Le McLaren, bon, s'éloigne de Haas, qui malheureusement pour l'écurie américaine avait un très très bon week-end. Mais comme on le voit souvent avec cette écurie-là, c'est malheureux pour eux parce que le vendredi, le samedi, vraiment, là, surtout avec Nico Hülkenberg, on constate des performances assez incroyables de la part de l'écurie qui sortent un peu de nulle part. Mais le dimanche, il n'y a rien à faire avec eux. Et malheureusement pour eux, c'est le dimanche que les points, ça compte le plus. Donc, McLaren a su profiter de la situation en sixième position. Et puis, entre la sixième et la septième position, c'est sûr qu'il y a plusieurs millions de dollars à la fin du championnat des constructeurs qui sont octroyés. Donc, je pense que McLaren, qui semble constamment être, en refondation financière, ça pourrait certainement les aider.
Ouais, c'est pour Haas au moins. Et pourtant, le Red Bull Ring a souvent été un circuit de prédilection pour Haas. C'est d'ailleurs là où ils ont obtenu leurs meilleurs résultats avec leur 4e et 5e place en 2018. Donc normalement, ils sont capables de se Ils sont capables de bien faire, mais aujourd'hui, ça a été beaucoup plus difficile. Et Kevin Magnussen aussi, qui a été encore une fois rudoyé par Nick De Vries. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a entre ces deux-là, mais à chaque fois que ça s'affronte, ça finit mal, soit pour un, soit pour l'autre, ou bien soit pour les deux, comme on l'a vu à Montréal. Et d'ailleurs, De Vries a été pénalisé en cette en cette manière pour avoir forcé Magnussen hors piste. Mais en général, pour Haas, j'espère qu'il va avoir une mise à jour majeure dans les prochaines, pour eux dans les prochains Grands Prix, parce que moi, je pense que cette voiture a un potentiel. On l'a vu en qualification, elle est super bonne, mais en course, là où les points comptent le plus, ben là, c'est étonnamment compliqué. Et hier, et même hier samedi, je te dirais, le sprint de Hülkenberg, ça a été littéralement, je crois, la meilleure performance d'un pilote Haas durant la saison. Parce que Hülkenberg a été, bon, il a été deuxième, mais quand il a malheureusement reculé comme on pouvait prévoir, mais quand la pluie est arrivée, Haas a pris le pari et Hülkenberg a été capable de revenir dans les positions payantes. Donc, moi, je pense que le sprint de Hülkenberg hier a été littéralement la meilleure performance d'un pilote Haas dans l'ensemble de la saison.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Meilleure performance. Bon, en termes de points, je ne saurais dire, mais en termes de conduite, définitivement. On a vu un Hülkenberg qui continue de nous impressionner par sa constance, qui, malgré un départ, une pause de la Formule 1, réussit à revenir, puis est en mesure d'être quand même bien devant là, Kevin Magnussen dans le championnat des pilotes. Puis pourtant, je veux dire, Kevin Magnussen est je considère que c'est un excellent pilote de Formule 1. Mm-hmm. Très rapide, souvent en début de saison. Vers la moitié de la saison, ça se corse. Puis vers la fin de la saison, malheureusement, ça semble constamment finir en queue de poisson. Donc, Nico Hülkenberg avec 9 points en 12e position dans le championnat des pilotes avec Kevin Magnussen à seulement 2 points pour Haas dans le classement 2023. Mais comme tu l'as mentionné, là, hier était probablement la meilleure performance de Haas, contrairement aujourd'hui, qui a été une performance un peu à l'image de Haas.
Ouais.
C'est malheureux.
Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que Magnussen, c'est probablement... c'est probablement peut-être pour moi une énigme parce que j'ai l'impression que c'est pas tu sais il a bien commencé la saison mais ensuite c'est plus ou moins bon je te dirais et vraiment et pourtant c'est un solide duo de pilotes expérimentés capables de faire de bonnes performances mais évidemment les voitures c'est sûr que la voiture n'aide pas, mais Magnussen devrait faire un peu plus, beaucoup plus même, je te dirais. Et s'il y a une écurie qui aurait dû faire un peu plus aujourd'hui, c'est Mercedes.
Ouais. Ouais.
Il y a vu.
Ben, je te laisse commencer, Abdou.
Oui, non, vas-y.
Je vais, donc, ouais, course un peu complexe pour Mercedes, avec un Lewis Hamilton qui a été, somme toute, très critique à l'endroit de sa voiture et qui, en bon québécois, s'est fait revirer de bord par un Toto Wolff qui a dit quelque chose comme « We know the car is bad, just drive it », quelque chose comme ça.
Oui, oui.
« Please drive ». En tout cas, c'était une poignade à la radio que ça faisait quand même quelques temps qu'on avait vu entre Lewis Hamilton puis Toto Wolff. C'était du vintage Lewis Hamilton Toto Wolff qui se pogne un peu sur la voiture. Malheureusement pour Mercedes, là, comme tu le mentionnes, ça a pas été une course exceptionnelle là. On avait vraiment l'impression de voir une écurie qui était en pleine remontée dernièrement avec des podiums multiples. Et puis là, bon, Lewis Hamilton, 7e place, 6 points. George Russell, complètement anonyme aujourd'hui, j'ai trouvé, avec 4 points en 8e place, 10 points au total pour les deux pilotes. Ça leur permet très difficilement de creuser leur écart avec Aston Martin pour obtenir la 3e place au championnat. Ben, en fait, pour que Mercedes puisse conserver sa deuxième place au championnat des constructeurs, de sorte que seulement maintenant 6 points qui séparent les deux écuries qui utilisent le même moteur. Bon, je m'attendais effectivement à mieux sur Red Bull Ring. Ça ne s'est pas produit. Cependant, peut-être Mercedes peut-elle se consoler en se disant « Lance Stroll aujourd'hui a terminé 10e, donc a été en mesure seulement d'obtenir un point pour son écurie, contrairement à Fernando Alonso qui lui a obtenu 8 points, donc 9 points au total pour l'écurie verte britannique, contrairement à 10 points aujourd'hui. »
Ouais. Et je te dirais, Mercedes, écoute, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué en fin de semaine. Une chance que les qualifications shootout ne comptaient pas vraiment là, parce que mon Dieu, là, ça aurait été énormément Mossad chez Mercedes. Heureusement, ils ont sauvé la mise avec le sprint, mais...
C'est une belle 18e place de Lewis Hamilton dans le shootout, non?
Ah oui, hein? C'était...
Oui, avec Bottas juste derrière lui.
Eh oui.
Du vintage Mercedes.
Et voilà, oui, exactement.
Mercedes qui avec Valtteri Bottas qui le suit.
Là, tu vois, au moins, il y a des choses qui ne changent pas. Pour le reste, il y a Mastercard.
Ramenez Mastercard là.
Ça, non.
Oh, okay.
Juste la livrée, mais pas la voiture. mais ouais, c'était très difficile pour Mercedes. Et vraiment, j'ai l'impression que cette voiture avait fait de bons progrès en Espagne et surtout à Montréal. Bon, on peut exclure George Russell qui a décidé de yéter sa voiture après le pont de la Concorde.
Et j'étais dans la tribune 31. Si tu savais comment la tribune a tremblé lorsqu'il est rentré dans le mur. Puis c'est fou parce qu'il est rentré dans le mur vraiment de l'autre côté de la tribune. Mais on l'a quand même vraiment senti.
C'est sûr que
d'un côté, j'étais sur le côté de l'estrade. Ça a tremblé. Là, je parle de mon expérience personnelle, mais on avait l'impression que l'impact était tellement gigantesque. Je me disais, oh mon Dieu, on vient de voir l'équivalent de Joe Guan Yu à Silverstone, mais absolument pas finalement. La suspension même de Russell était pas brisée. Ben, du moins, n'a pas semblé l'être tout de suite. Puis c'est là qu'on se rend compte là, que des fois à la télévision, bon, on voit des impacts de la Formule 1, ça a l'air un peu futile. Les voitures ont l'air extrêmement fragiles, mais tu te rends compte que finalement, c'est quand même assez bruyant.
Ouais, quand même, je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi gros impact sur la Terre, un incident comme celui-là. Pourtant, my God, tu viens de m'apprendre quelque chose, là, c'est malade.
Oui, vraiment. Donc, sur cette parenthèse, effectivement, Mercedes qui avait une super belle lancée qu'on a vu justement à Montréal avoir, outre George Russell, on a vu un Lewis Hamilton avoir une course exceptionnelle. Puis on sait que le Grand Prix du Canada, c'est un circuit qu'il aime beaucoup. Et je m'attendais que Mercedes demeure dans cette lancée-là.
Ouais.
Ça s'est absolument pas produit aujourd'hui. Ça a été une voiture, ça a été en fait la Mercedes de début de saison.
Ouais. Ouais. Peut-être que le Red Bull Ring n'est pas un circuit adapté pour cette voiture à cause des longues lignes droites. Mais j'ai hâte de voir à Silverstone où justement t'as un mélange des virages un peu plus rapides.
Mm-hmm.
J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Silverstone parce que. T'es même l'année dernière, la voiture avec zéro ponton avait quand même bien fait, puis elle s'était battue pour la victoire. Donc, t'es peut-être que Autriche était juste un one-off dans l'évolution de la voiture, mais on verra ce que ça va donner. Et j'ai envie de voir aussi Aston Martin parce que eux, ils ont été malchanceux. Là. La voiture de sécurité virtuelle qui se termine au moment où autant Alonso et Stroll sortent de la ligne des puits, ça a vraiment shafté Stroll qui a fait trois arrêts. Donc, ouais. T'sais, si toi le reçois
pas. Oh, quel mauvais timing. Quel mauvais timing. Quand j'ai vu le drapeau vert alors que les Aston Martin sortaient, je me disais, oh non, Seigneur.
Eh oui.
Puis ça donnait de quoi un peu épouvantable sur la piste. Là. On avait l'impression qu'on était, je veux dire, il y avait tellement de voitures côte à côte pour que je passe la 16e place, on aurait dit qu'on était à Talladega. Là.
Oui.
Ça vraiment donné n'importe quoi comme moment. Mais bon, malheureusement pour Aston Martin, ça l'a ruiné la course de la Show, on va se le dire.
Ouais.
Lui, pourtant, qui connaissait quand même qui connaissait jusqu'alors une bonne course. Si je me rappelle bien, Lance Stroll était... ne connaissait pas une si bonne course que ça. Je retire mes paroles. Lance Stroll qui avait commencé quand même en 6e position et puis qui a...
Bon,
semblait
places.
Avoir des bonnes performances.
Ouais.
Mais qui finalement a terminé 9e à cause de... 10e, pardon, à cause une malchance niveau stratégique auprès d'Aston Martin. C'est le jour de la marmotte pour Stroll. On dirait que à chaque fois qu'il peut connaître une belle performance, Aston Martin semble ruiner sa course.
Ouais. Et tu sais, moi, quand j'ai vu Stroll sortir des puits, là, la première réaction que j'ai eue, c'était ça. Ouais. C'est dommage parce que à part le départ où il a perdu 2 places puis c'était un peu dans la même situation que Lando Norris hier, il avait du rythme. Ça, je pense que je peux le dire, il avait du rythme durant tout le week-end. Il a été très bon, mais malheureusement la stratégie a pas vraiment fonctionné. Autant pour lui, autant aussi que pour Fernando Alonso, je crois que la voiture de sécurité virtuelle les a carrément enfiroapés, si je peux prendre le terme. Mais si on parle de Lance Stroll, je pense que c'était une performance vraiment... encourageante de sa part. Maintenant, ça va être de répéter ça sur une manière un peu plus constante, ce dont on le reproche depuis 7 ans. Mais je pense qu'il y avait au moins une bonne affaire.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on parle de reproche depuis 7 ans. Cela étant, on a vu un Stroll très agressif aujourd'hui, mais de la bonne façon. J'avais l'impression que ça manquait peut-être à Stroll depuis certaines courses. On l'a vu aujourd'hui, malgré une 10e place, je considère quand même que c'est encourageant. On verra à Silverstone. J'ai hâte de voir si on verra pas une belle bagarre Aston Martin-Mercedes, voire Aston Martin-Ferrari-Mercedes.
Ouais.
Je mets déjà Red Bull hors de l'équation, en toute franchise.
Ouais.
Mais on pourrait avoir 6 pilotes particulièrement agressifs l'un envers l'autre. Aston Martin en raison du fait que l'écurie est britanno-canadienne, Mercedes en raison du fait que leurs 2 pilotes sont britanniques, puis Ferrari parce qu'il faudrait qu'ils passent s'ils veulent pas se faire matraquer médiatiquement par les tifosi, ça serait une bonne idée.
Exact. Et aussi dû au fait que Aston Martin, l'usine est juste à côté du circuit et Mercedes n'est pas très loin non plus, à genre une dizaine de kilomètres, l'usine de Brackley, genre je pense 10 minutes ou 10 kilomètres de Silverstone. Donc ça va être une belle bataille à suivre pour ces deux équipes, puis pour Ferrari, parce qu'ils n'ont pas ben le choix. D'ailleurs, Frédéric Vasseur a confirmé qu'il va avoir d'autres pièces dans la mise à jour pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais sinon, c'était vraiment encourageant pour Ferrari, et un peu moins pour Mercedes et Aston Martin. Ben là, c'est unlucky! Donc, sinon, Juliette, avais-tu des mentions honorables, des performances d'autres pilotes qui méritent d'être soulignés ou contre-performances?
Pour ce qui est d'aujourd'hui précisément, pas vraiment. Pour ce week-end, deux mentions honorables. Je parle vraiment du week-end en général. J'aurais dit Alex Albon, oui, et Nico Hülkenberg. Ça a été probablement mes coups de cœur du week-end, abstraction faite de Lando Norris aujourd'hui. Mais sinon, c'est à eux que j'offre ma palme d'or. Contre-performance, on n'a tellement pas parlé de Alfa Romeo qui a été une écurie absolument médiocre.
Comme d'habitude.
On va se le dire. C'est une écurie brouillon qui était anonyme. Je veux dire, est-ce qu'on a vu une seule fois aujourd'hui à la caméra Joe Guanyu ou Valtteri Bottas? Peut-être Valtteri Bottas?
Ouais, mais...
Ça a été... Donc, pas grand-chose à dire, malheureusement, par rapport à cette écurie. Donc, je le mets dans ma contre-performance évidemment, assez AlphaTauri. Mais ça, je veux dire, je vais me répéter, puis ça va être contre-performance après contre-performance.
Ouais, exact. Moi, je pense que Alfa Romeo, c'est juste... À l'image de la course d'Oscar Piastri aussi aujourd'hui, fantomatique.
Ouais. Ouais, effectivement. Oscar Piastri qui bénéficiait pas de la mise à jour du véhicule, des modifications, les upgrades dont Lando Norris a bénéficié. Cependant, je peux pas croire que les upgrades à eux seuls peuvent faire une différence qui soit aussi grande entre une 5e et une 17e place. Je pense que Piastri a juste été brouillon aujourd'hui.
Ouais, exact. Moi, je pense que c'était juste un one-off, si je peux me le permettre pour Piastri. Mais je pense qu'il va se ressaisir au Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc,
oui, tout à fait. Puis je répète que je pense que Piastri a quand même jusqu'ici une bonne saison. Mm-hmm. Je lui souhaite d'avoir une belle performance à Silverstone, qui offre pratiquement chaque année une des courses les plus enlevantes de la saison de Formule 1.
Et avant de compléter cet épisode, je viens de tomber sur un article de Race, Kevin Magnussen qui dit que Nyck de Vries, la conduite de Nyck de Vries montre qu'il est vraiment désespéré pour rester en Formule 1.
Ouf.
Après, justement, le fait que De Vries ait forcé Magnussen hors piste lors de la course.
C'est triste parce que ça vient d'un pilote qui a souvent eu une conduite désespérée pour demeurer en Formule 1. Donc, ça en est un qui est peut-être bien placé pour parler. Mais bon, OK. Est-ce que Kemag a raison? Peut-être. Sans dire un pilote désespéré, c'est peut-être un pilote qui manque complètement de confiance. Je souhaite à Nyck de Vries d'être là pour le reste de l'année. Je ne sais pas s'il va l'être, honnêtement. J'ai l'impression qu'il va courser au moins pour le Grand Prix des Pays-Bas. Mais ça commence à sentir vraiment le roussi pour lui.
Ouais.
Oui, Yuki Tsunoda a une course misérable aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est quand même un pilote qui a une année intéressante avec une voiture épouvantable.
Et qui a montré de bonnes choses. Qui a montré de bonnes choses au moins. Ça, il faut se le dire. Je pense que Yuki Tsunoda a une belle progression. De Vries, déjà le fait que c'était pas le choix numéro un de Red Bull.
De Christian Horner,
devrais-je mentionner surtout. C'est triste parce que moi, je pense que, et en plus, faut pas oublier que De Vries avait un contrat chez Maserati en Formule E avant d'être en Formule 1. Donc, avec AlphaTauri.
Effectivement.
Donc, c'est triste parce que De Vries est passé de héros l'année dernière avec sa 9e mm-hmm. place au Grand Prix d'Italie à un mime complètement. C'est en l'espace de presque un an, là. T'imagines, là, on est rendu là. Donc,
ouais, champion de Formule 2, champion de Formule E, 9e position, 2 points à Monza après avoir coursé en catastrophe. Obtient enfin un siège en Formule 1 après que nombreuses personnes, avec raison à l'époque, décriaient son absence. de Formule 1, ou du moins qui a aucune chance d'y assister, étant donné que bon, c'était peut-être pas le pilote qui était le plus chanceux, qui avait le plus de contacts ou qui avait le plus d'argent pour lui sécuriser une place en Formule 1. Finalement, est-ce que certaines écuries voyaient peut-être ces résultats en simulateur ou comprenaient que le pilote n'avait pas sa place en Formule 1? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Cela dit, j'espère quand même qu'il saura obtenir, qu'il reste ou qu'il reste pas en F1. Là, je trouve ça triste de voir ça. C'est un pilote que je respecte infiniment. Puis j'espère qu'il va être en mesure là, d'avoir ne serait-ce que des performances intéressantes.
Et je viens de tomber sur un tweet de Chris Medlin que je vais t'envoyer à l'instant. Mais la FIA, bon, il n'y a pas encore de documents pour l'instant, mais la FIA dit qu'il y a eu à 1200 reprises, et c'est pas exagéré, 1200 reprises, ils ont été obligés de regarder à des infractions possibles de limite de la piste. Donc là, ils vont commencer une révision complète de toutes les infractions qui ont lieu en ce moment. Et le résultat sera mis à jour lorsque la révision de tout ça qui n'ont pas été faites seront faites.
Super. On va avoir un résultat dans 2 semaines.
Et oui.
Mais 200 reprises. Okay.
Et la FIA suggère de mettre des bacs à gravier à l'extérieur des virages 9 et 10 dans le futur.
On a vu effectivement que le virage 10 a été particulièrement controversé. Sans dire controversé, a été particulièrement difficile tout au long du week-end. C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais comme tu l'as mentionné, encore faut-il que ça respecte les normes pour qu'une course de MotoGP puisse avoir lieu.
Ouais. Donc, moi, je sais pas, est-ce que c'est... Je me demande si... D'ailleurs, je me demande, c'est quand le Grand Prix... S'il y a déjà eu le Grand Prix d'Autriche en MotoGP, parce que la Fédération internationale de la... Je sais pas si ça va... si ça va être bon pour la Fédération internationale de la moto, surtout que le circuit avait été justement mis à jour pour la MotoGP avec l'installation d'une chicane. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. OK, donc il y a la MotoGP, ça va être du 18 au 20 août, mais je ne pense pas qu'il va y avoir du gravier d'ici là. Donc, ça va être évidemment pour le Grand Prix d'Autriche de l'année prochaine, qui d'ailleurs sera au calendrier jusqu'en 2030. Donc, j'ai hâte de voir, mais présentement, il n'y a pas de... Je pense que la seule nouvelle en lien avec la demande de contestation d'Aston Martin, ben, c'est juste qu'ils sont en train de faire une révision complète de toutes les infractions. Donc, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Bref, on va mettre fin à cet épisode. Dès qu'on aura des nouvelles, on mettra ça sur nos réseaux sociaux, sur le compte du bulletin GP, sur Facebook, Twitter et aussi Instagram, mais aussi sur le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre en tout temps. Notre prochain épisode sera ce jeudi dans l'épisode numéro 142 et avec un sujet à déterminer. Et il y aura une émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche prochain, donc la semaine prochaine. Évidemment, nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Julien Légaré-Turcotte, cofondateur du groupe Facebook La Monoplace, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, mon cher Abdou.
Alors, on se retrouve... la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!